Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique pour Côté Club, votre magazine de toute la scène française et plus si affinité, que vous pouvez réécouter sur le site de France Inter et en podcast évidemment. Ce soir, nos invités sont Hugues Blineau et Laurent Lamarca. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Laurent Lamarca, vous signez un jeu d'enfant, troisième album pour un recueil de 10 chansons qui regardent l'enfant que vous étiez, des secrets de famille et qui font ce constat, vous avez grandi. Hugues Blineau, nous sommes le 8 décembre 1980, il est presque 23h. John Lennon est abattu devant le Dakota Building. Point de départ de votre livre, Vie et mort de John Lennon. Une variation à travers le point de vue de ses proches, Yoko, Sean, Julian, Paul et les autres. Marion ?
C'est vendredi, c'est jour de sortie. Un an après le premier confinement, trois sons qui s'en sont inspirés, ceux de Bigger, de Wendy Martinez, de Peter Van Paul.
Voilà, vous savez à peu près tout. Maintenant, on entend tout. Alors, bienvenue au club.
Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
Et on ouvre tout de suite avec Rhône qui vient de rentrer en playlist sur France Inter. Il sera notre invité lundi pour son nouvel album, Rhône and Friends. Un disque avec plein d'invités comme on ne peut plus en avoir autour d'une table. Flavien Berger, Yael Naïm, Camélia Jordana, O2N, Dominica et Georgia sur ce titre, Wave of Devotion sur France Inter.
Have you ever swam so far, far enough to breathe, swim in the ocean, kick in my feet, in waves of devotion?
Wave of Devotion, extrait de l'album Rhône and Friends. Nos friends ce soir sont deux dans Côté Club. Présentation. Laurent Lamarca, vous êtes auteur, compositeur, pour vous et pour plein d'autres, on y reviendra, avec des tubes, on y reviendra aussi, et interprète. Troisième album, il vient de paraître, Un jeu d'enfant. Hugues Blineau, vous êtes critique rock sur le site Pop News, prof aux Beaux-Arts de Nantes, écrivain avec Vie et mort de John Lennon. La première question est toujours la même, après je tente de diversifier quand même. Première question, est-ce que vous vous connaissez ?
Pas du tout.
Non. Vous vous êtes vus déjà en loge ?
Oui, il y a quelques minutes.
Vous avez échangé sur quelque chose ou rien ?
Non, non, rien du tout.
Chacun était sur son portable ?
Non, on n'a même pas eu le temps en fait d'échanger, c'est juste qu'on n'a pas eu le temps.
Très bien. Laurent Lamarca, vous êtes né en 81, Hugues Blinou en 73, donc une génération vous sépare à peu près. La musique avec laquelle vous avez grandi chacun, ce serait laquelle, Laurent ?
Bah, je pense qu'on va se retrouver en fait un peu parce que moi j'ai quand même grandi avec les disques de mes parents, donc on va dire les Stones, les Beatles, Led Zepp, Neil Young.
Neil Young, ouais. Ah, ouais, en effet, on dirait presque votre bouquin qui commence aussi par...
Alors que moi, c'est plus les années 80, finalement.
Ah, avec ouais. laquelle vous avez grandi, c'est-à-dire, ouais.
Donc,
New Wave,
ouais,
et Pascal.
À l'âge de 14-15 ans, ça a été Joy Division, les Smiths, New Order, et puis toute la vague New Wave des années 80.
Voilà. C'est là où vous avez fait l'impasse dessus ?
Complètement, ouais. Complètement, en fait. Parce qu'après, moi, du coup...
Vous avez sauté, oui, les années 90.
Ouais, je suis plus parti sur le rock 90, du coup, après, moi.
Est-ce que la musique était une affaire de famille chez
oui,
vous ?
Oui, complètement.
C'est-à-dire
ouais, ouais. Ben c'était tout le temps là quoi. C'était mon père jouait de la guitare, chantait, ma mère jouait de l'accordéon et chantait. Donc toutes les fêtes c'était toujours avec une guitare.
Et de votre côté, Hugues Blinou ?
C'était pas forcément un milieu musical. Non, non, non. J'ai vécu dans la nature, dans la campagne, de manière un peu isolée de la ville. Mais c'est aussi pour ça que le sentiment de solitude provoque aussi le goût et l'intérêt pour la musique. La musique, c'est aussi un univers dans lequel on peut revenir autant qu'on le souhaite quand on se sent un petit peu isolé géographiquement.
Quelle campagne ?
Tout près de Nantes, à une quinzaine de kilomètres de la ville.
Vous aussi, une enfance campagnarde ?
Plutôt banlieusarde, ouais. Banlieue de Lyon.
D'accord.
Mais oui, il y avait des vergers, je prenais mon vélo tous les jours.
Des groupes avant de chanter en solo ?
Ouais, plein, ouais. Ouais, ouais. Ouais, à 12 ans, on a monté un groupe avec mes cousines et ma sœur. Bon, c'était pas exceptionnel.
Vous étiez chanteur ?
Non, j'étais guitariste.
Ah, d'accord.
Non, moi je suis chanteur par défaut, moi, un peu.
Par défaut ?
Ouais, ouais, ouais. En fait, j'ai toujours eu des groupes. J'étais le guitariste, leader, on va dire.
Ouais.
Mais j'ai jamais trouvé de chanteur, en fait. Donc à un moment donné, il a fallu s'y coller. Puis au fur et à mesure, bon bah de pas trouver de chanteur, je me suis mis. Puis petit à petit, j'ai progressé parce que quand même, ouais. Au début, c'était un peu catastrophique, faut oui. Mais voilà, non, un peu par la force des choses, ouais.
Et les premiers groupes, c'était quel répertoire ?
Bah alors du coup, le premier groupe, c'était Musical Partition avec mes cousines. C'était bon, on faisait de la chanson de Baba Cool, mais d'enfants. Je sais pas comment dire, c'est un peu les Poppies.
c'était pas mal les Poppies.
Ouais, c'était cool les Poppies.
Ouais.
Et puis après,
c'était les années 60 quand même les Poppies.
Ouais, ouais, ouais. Non, mais il y avait ce truc-là, un peu variété. Moi, j'aimais beaucoup Woozy à l'époque.
Ouais.
Et puis après, il y a eu l'arrivée du grunge. Et ça a foutu un gros coup de bordel. Et après, il y a eu aussi l'arrivée de la trip-hop. Ça a été...
Vous avez eu un groupe de trip-hop ?
Ouais, ouais. Vraiment très très fan de Portishead, ça c'était fou ça.
Et le groupe de grunge, il s'appelait comment ? Parce que généralement, ça vaut son pesant d'or.
Ah ouais, il y en a eu plusieurs. Il y a eu donc Capharnaüm. Voilà, super. Après, il y en a eu d'autres, mais franchement, j'ai trop honte. Quoi.
Ah, bah non, c'est l'occasion.
Il y a eu
jamais.
Un groupe qui s'appelait Carapoustoupouille, quand même. Ça, c'était improbable.
Après, ça fait pas très grunge.
Il
hein.
y a eu, non, mais là, c'était n'importe quoi. C'était un truc avec des potes. C'était assez drôle. Et puis après, il y a eu XX Mariani. Ça, c'était plus punk hardcore.
Voilà. Ah oui, quand même, vous avez traversé pas mal de styles.
Ouais, mais toujours la guitare, ouais.
Et vous, des groupes, musiciens ?
Non, pas du tout.
Rien.
La guitare a été achetée, mais rapidement rangée. je me suis plutôt concentré sur les crayons et le dessin, en fait, hein, puisque je viens de l'univers des arts visuels. Voilà.
Ben, on parlera de ça, justement, au vu de la pochette que ouais. vous nous avez confiée, Laurent Lamarca. Allez, on entre tout de suite dans vos jeux d'enfants. Troisième album, Laurent Lamarca, on a choisi Le Loup. Il est question d'un secret de famille. Quelle histoire elle a, cette chanson ?
En fait, je vais le dire crûment, mais parce que j'ai envie. Dans ma famille, il y a beaucoup de pédophilie. Et moi, j'ai pas été victime de ça, mais j'ai été victime du tabou, en fait, du non-dit. Pendant beaucoup d'années, en fait, je me suis rendu compte que je souffrais de ça jusqu'à l'apprendre un jour, à 30 ans, d'une manière assez improbable, puisque j'ai fait un rêve prémonitoire. C'était assez hallucinant. Et en fait, j'ai à partir de ce moment-là, j'ai voulu écrire là-dessus parce que vraiment, je trouve que il y a aussi une dimension, le non-dit a une dimension traumatique aussi.
Bien sûr, oui.
Et enfin, moi, j'en suis, je vois clairement la victime et de ça. Et du coup, j'avais envie de parler de ça. J'ai mis longtemps à écrire cette chanson parce que voilà, c'est sur un fil, c'est l'émotion et j'ai trouvé un moyen, je crois, de mettre des mots sur ce que je ressentais en tout cas.
Est-ce qu'il y a eu des réactions de votre famille par rapport à cette chanson, à ce texte ?
Je sais pas trop, en fait. Parce que j'ai eu aussi de mes cousines proches, oui, positivement. Après, je suis aujourd'hui un peu en distance, mais sans vraiment le vouloir, avec la famille en question. Je sais pas trop en fait, puis ça est sorti très récemment, donc je sais pas.
On écoute tout de suite Le Loup sur France Inter.
Dans ma famille, il y a un danger, un secret qui sévit depuis des années. Mais là j'ai tout compris, mais là j'ai tout compris. C'est qu'on se tait depuis longtemps, on se tait et puis on rit beaucoup. Mais là j'ai tout compris. Entre deux billes, je veux parler. Entre deux billes, je lâche tout. Dans ma famille, il y a un danger. Dans ma famille, il y a le loup. Je crie, oh, je cours. Je prends mes jambes à mon cou. Oh, je crie, oh, secours.
De Un jeu d'enfant, nouvel album, le troisième, un album où, si j'en crois la note d'intention, Laurent Lamarca, vous auriez tout changé pour vous faire plaisir à vous. Ça veut dire qu'avant, vous faisiez plaisir à qui? À la maison de disques?
Ouais, un peu, ouais, je crois, ouais. Enfin, je sais pas, genre, je suis pas encore bien clair avec tout ça, mais ouais, au public aussi. À la maison de disques, oui, en fait, oui, c'est vrai. Et du coup, j'avais un peu du mal à m'écouter. J'ai l'impression d'être revenu à un son qui me plaît, en fait. D'ailleurs,
oui, il y a un vrai changement de son quand même.
Ah oui, oui, ça en parlera.
D'ailleurs, je pensais pas le sortir en fait cet album à la base.
À ce point-là ?
Ouais, ouais, ouais. J'ai vraiment décidé de faire une pause il y a presque deux ans.
Ouais.
Je compose pour d'autres et je m'éclate dans ce domaine-là et ça marche bien et c'est super et je me sens bien, je me sens à ma place. J'ai été un peu traumatisé par la sortie du dernier album. C'était un peu compliqué.
Comme un aimant.
Ouais.
2018.
Ouais. Ouais, ça a bien marché et du coup, c'était dur en fait. Enfin, je sais pas, mais après.
Comment ça a bien marché, du coup, c'était dur?
Bah, il y a ce foutu ego là, on sait pas quoi en faire. Enfin, moi en tout cas, je sais pas quoi en faire. J'admire d'ailleurs ceux qui s'en sortent bien et ceux pour qui je travaille d'ailleurs.
Bah oui, oui, parce qu'ils s'en sortent pas mal avec les disques, avec les titres que vous leur faites. On écoutera tout à l'heure certains.
Non, mais ouais, c'est vraiment, il y a une part de sacrificielle là-dedans qui est pas facile. Enfin, moi en tout cas, ça me rend complètement fou et je m'aime plus après.
Alors vous disiez que vous vouliez tout changer, pourtant quelque chose reste. C'est l'idée du concept album. Comme un aimant, ça tournait autour des quatre saisons. Et puis cette fois-ci, ça tourne autour de l'enfance.
Ouais ouais, ça c'est, mais j'adore moi, j'adore, c'est un peu, bah c'est un peu ce côté 70 en fait hein, ouais. Le concept album avec la pochette, tout le truc, l'air total un peu, j'aime bien, j'adore ça moi. J'adore ça, puis ça me tient, ça donne des idées, c'est prenant. Après il y a un stade en fait quand on est dans le concept album où tout ce qu'on voit est en relation avec l'album et on va prendre de partout des odeurs, des couleurs, des goûts, des machins et on note.
Et tout rentre dans le cadre, en fait.
Ouais, c'est franchement, c'est un processus qui est passionnant.
Alors justement, si c'est un concept album, la pochette participe du dispositif, comme on dit dans les arts plastiques. Le dispositif, il y en a beaucoup dans les arts plastiques. Un jeu d'enfant, je regarde la pochette, qui m'a vraiment intrigué, parce que je la trouve en fait super. C'est un dessin, crayon de couleur, un Playmobil cow-boy, de dos, de face, de profil.
Ouais.
Vous en êtes l'auteur ?
Ouais, j'ai tout fait sur cet album. J'ai même masterisé l'album. J'avais envie vraiment de tout faire. J'ai été aidé par quelques amis sur le texte. Mais sinon, j'ai tout fait, les pochettes. Et en fait, à la base, j'ai fait un visuel par titre. Donc, chaque titre a son visuel. Toujours sur ce principe-là, comme les affiches d'enfance explicatives qui vont,
où il y a dessiné un chien, puis il y a marqué un chien.
Voilà, avec les poids, avec les mesures, les choses comme ça, les vieilles affiches qu'on avait sur les écoles avant. Et j'ai tout décalqué à la main, j'avais vraiment envie de ce processus-là. Puis alors, il y a un truc qui est génial aussi, c'est quand on fait de la musique, on peut pas écouter de la musique. Alors quand on fait du dessin comme ça qu'on gribouille, moi je me mettais des podcasts comme ça, Affaires Sensibles, ça c'était trop bien.
Affaires Sensibles de Fabrice Drouel. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce dessin de pochette, vous qui êtes prof aux Beaux-Arts de Nantes? Eh ben oui, la question qui tue, la question horrible. De toute façon, il ne pourra pas dire, c'est de la merde.
Non, mais ça m'a fait un petit peu penser à l'univers de ce dessinateur qui s'appelle Glenn Baxter.
Exactement. Ah oui.
Et spontanément, j'ai pensé que c'était lui l'auteur. C'est pour ça que je vous ai demandé aussi qui était l'auteur. Glenn Baxter fait des bandes dessinées, mais aussi, enfin, oui, des bandes dessinées et aussi de l'illustration et aussi, ces dessins sont vendus en galerie d'art contemporain aujourd'hui.
Tout
depuis
à fait.
Quelques années.
Ah, je vais être fou, je
vais. Alors, c'est un album intimiste qui commence sur un jeu. Extrait.
J'ai sorti mes ciseaux. J'ai tout découpé. Sont tombés. J'ai sorti mes ciseaux, je nous ai séparés. Mon amour, pardonne-moi, je vais tout recoller. Pour faire pied face au taureau, pour faire un rocher comme avant.
Donc, quand s'y méprennent pas, en effet, le disque commence sur un geste violent, le fait de découper au ciseau, qui est peut-être un jeu d'enfant. L'enfance est donc au centre de cet album, avec une certaine violence, et ce constat terrible, j'ai grandi.
J'ai balancé mes vieilles peluches, plus de veilleuses, je fais l'autruche. Les monstres sous le lit, sous fil en insomnie. Les petites voitures m'emmènent aux urgences, les petits cachets. On mène en vacances. J'ai grandi, j'ai grandi, j'ai grandi. J'ai pris la vie en pleine gueule et puis...
La violence est vraiment présente dans cet album et elle s'épanouit dans un titre qui porte ce nom, sombre, avec des accents reggae.
Il a jamais autant plu, putain. Il a jamais autant plu. Il a jamais autant plu, putain. Il a jamais autant plu.
Un mot sur cette tendance reggae.
Ouais, alors
Laurent Lamarcard.
En fait, il y a quelques années, moi je viens pas du tout du reggae, c'est pas une musique que j'écoute à la base, mais il y a quelques années, j'ai complètement bloqué sur cette rythmique là. Mais vraiment avec l'absence de kick sur le troisième temps là, ce trou là, ça m'a fasciné. Et je sais pas, je trouve que c'était hyper propice pour avoir une musique qui avance, presque dansante, et en même temps avec toute la place. Il y a très peu de choses. On peut la rythmique, elle se résume à un petit charlet, une grosse caisse et une caisse claire, c'est tout. Et ça fonctionne. Je trouve ça passionnant. Et je me suis un peu plongé là-dedans. Et je trouve que ça marche bien aussi avec la folk, la guitare, tout ça. Enfin, j'aimais bien cette alchimie-là.
Et en parlant d'alchimie, il y a un son qui réunit ces trois titres. C'est celui-ci. Laurent Lamarca.
Ah, le A. Ah.
Ouais, que l'on trouve dans les trois titres que l'on a.
Ouais, alors là, je dois remercier un ami, c'est Vincha. Parce qu'en fait, j'avais mis ce son sur une des chansons. Et bon, c'est vraiment mon meilleur ami, il est tout le temps là sur tout ce que je fais. Et il m'a dit, ah, ça c'est génial, ça c'est un sample. Et comme Manu Chao.
Oui, ouais, d'accord.
Et j'ai trouvé l'idée géniale d'avoir, j'avais jamais pensé à ça, d'avoir des samples qui reviennent comme ça. Et je trouve qu'ils symbolisent bien la chute comme ça. En même temps, il est un peu doux. C'est, et donc, il marche partout, ce son, j'adore.
On le réécoute ? Voilà. Ouais. Il faut vraiment qu'il y ait votre meilleur ami pour vous donner cette idée-là.
Ouais, oui,
c'est vrai qu'on l'a repéré. Enfin, moi, je ne l'avais pas repéré tout de suite.
Ouais, c'est, bon.
C'est notre, bien sûr, musicologue attitré, Stéphane Le Guenec, qui nous a...
Bien vu.
Ah ouais, vous le regardez, il est très fier avec ses cheveux qui sont dressés à la bière aujourd'hui sur la tête. J'ai grandi. Ça veut dire, quel enfant étiez-vous, Laurent Lamarca ?
Hyper joyeux, moi. Très optimiste, très... Enfin, voilà, je suis parti, j'ai fait un début de vie vraiment... au taquet.
Et à partir de quand ça a déconné ?
Bah, il y a pas si longtemps en fait, quelque part. Il y a eu j'ai commencé un petit peu à me prendre un peu les pieds dans le tapis quand j'ai voulu être chanteur en fait, un petit peu.
C'est-à-dire en 2012-2013, 2012 premier EP, 2013 2012-2013, c'est le premier EP et le premier album.
Ouais, hein. C'est ça, un peu avant du coup parce que voilà, il se passe des choses avant un album. Hein.
Ouais.
Mais voilà, mais après voilà, et puis ces dernières années en fait, vraiment je sens voilà, j'ai pas mal de choses qui m'ont freiné, j'ai dû revenir en arrière, fouiller un petit peu une petite crise de la quarantaine, on va le dire, voilà, tranquillement.
C'est bientôt la quarantaine, c'est pas tout de suite encore.
Bon, c'est dans 3 semaines. Donc,
très bien.
Voilà.
Signe particulier, je le disais. Ça peut aussi expliquer le fait que vous ayez retardé peut-être cet album et même peut-être de ne pas vouloir l'enregistrer. Vous écrivez pour les autres avec succès dans des registres différents. Le premier.
Samedi, on a fait du vélo, les leurs étaient trop petits. J'ai acheté des nouveaux, je sais qu'on se l'est déjà dit 1000 fois, mais la vitesse à laquelle ils grandissent. Ma sœur m'a filé sa télé, je l'ai mise au milieu du salon, elle trône comme un trophée, ça m'aide à t'oublier vu que toi tu détestais. On la regarde jamais, on se fait des films dans le lit, devant l'ordi, collé, et on s'endort ici. Je sais que c'est interdit, je sais ce qu'a dit la psy, mais j'essaie quand même de faire des dîners, j'essaie quand même d'avoir des invités, quand même de garder de la douce folie qui nous définissait. Et puis souvent je m'arrête et je regarde autour de moi et je me dis, et toi, qu'est-ce que tu fais pendant ta semaine A ?
Ça c'est Ben Mazué, vu par Laurent Lamarca, semaine A, semaine B, c'est sur son dernier album, mais c'est pas la première fois que vous travaillez pour lui.
Non, on l'a fait avec Ginja justement, et on a fait sur l'album précédent, La mer est calme. C'est la première fois qu'on écrivait une chanson, enfin, je pense que c'est la première fois que Ben Mazué chantait une chanson qui n'était pas de lui. Parce que quand même, Ben Mazué écrit pour tout le monde, quand même, globalement.
Aussi, bah oui, lui aussi, oui.
Donc écrire une chanson pour Ben Mazué, c'est quand même plutôt cool. Après, c'est un ami, on a la même équipe, c'est super, c'est super de bosser ensemble.
Et puis alors, un deuxième titre, là, qui a été un tube.
Posé sur un rocher, se laisser aller, à un pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Sur les épaules des géants, le cœur éléphant, voir au-delà de nos vies.
Hugues Blineau, vous connaissez ce titre ?
Pas du tout.
Parfait. Eh bien, vous allez vous renseigner.
C'est un tube, c'est
ouais,
ça
c'est un tube. Ouais. C'est Laurent Lamarca.
Ouais, bah c'est pas bah, ça, c'est la famille, hein, Jérémy Frérot.
Les Frérot de la Vega.
Ouais, avec Jérémy.
Le cœur éléphant.
Ouais, c'est un peu eux qui m'ont mis le pied à l'édifice pour composer pour d'autres. Ils sont venus me voir, du coup, après mon EP Border Lune. Ils m'ont demandé d'écrire une chanson pour eux. J'avais celle-ci. En fait, ça devait être le nom de mon EP, mais j'arrivais pas à aller au bout de la chanson, donc je l'ai un peu mis de côté. Et en travaillant pour eux, ça a donné ça. Et franchement, c'était vraiment une super histoire.
Aujourd'hui, on vient vous chercher.
Oui, alors du coup, voilà. Maintenant, c'est très confortable.
Pas financièrement que, hein. Aussi.
Oui, financièrement, c'est super. Non, mais il y a un vrai plaisir. Ça m'amène à travailler sur plein de styles différents, à écrire plein de d'être dans la peau de plein de gens différents.
Ça va de Luce à
il y a eu Kenji Girac.
C'est-à-dire de tous les registres populaires, un peu plus indépendants.
Ouais, moi j'aime la musique, la mineure, je suis heureux, donc du coup c'est vraiment passionnant. Puis c'est encore une fois, c'est vraiment, je passe ma vie en studio à faire des chansons. Je veux dire, c'est mon rêve quoi.
Et pour l'ego, c'est plus apaisé.
Et pour l'ego, c'est beaucoup plus apaisant. Bah disons qu'il y a c'est quand même ce truc d'écouter sa chanson à Intermarché quand on achète sa soupe, c'est chouette. Et en même temps.
Mais vous vous dites jamais, je préférerais que ce soit moi qui la chante.
Non, alors avant oui, plus maintenant.
Ouais.
Parce que je sais ce que c'est.
Mais qu'est-ce que ça a été, qu'est-ce qui a été difficile pour vous pour que vous disiez encore cela aujourd'hui? Parce que je sais ce que c'est.
Non, mais c'est très bizarre. Il faut vraiment être fort parce qu'il y a quelque chose qui marginalise en fait. On arrive quelque part, on est connu avant de connaître les autres. C'est très bizarre. On est tout le temps. Il y a beaucoup de compliments, de choses comme ça. Il faut arriver à avoir la tête sur les épaules, à les prendre comme ils doivent être. Moi, ça me gonflait, ça me faisait bizarre. Je me sentais pas bien.
Le syndrome de l'imposture.
Ouais, je sais pas, peut-être, j'en sais rien, j'arrive pas, je suis pas encore, j'ai pas encore tout compris. Mais en tout cas, ça me faisait du mal.
Et quand vous faisiez les premières parties, par exemple, de Julien Clerc ou autre, pareil, vous aviez une position difficile ?
Non, alors sur scène, c'est génial. Par contre, les premières parties, ça, j'adore, j'en ai fait plein.
De toute façon, les gens viennent pas pour vous, ils viennent pour l'autre.
Exactement. Il y a ce côté, voilà, on m'attend pas, je suis pas connu. Et par contre, il y a ce petit challenge d'arriver à choper tout le monde. Ça c'est le truc qui me manque un petit peu, j'avoue. Mais je pourrais être chanteur et faire que des premières parties. Voilà, ça me suffirait.
Ce que vous pourriez faire, c'est votre propre première partie. Ouais, vous seriez en première partie et ensuite vous revenez. Mais là, c'est le chanteur difficile, plus connu.
Voilà,
plus...
que j'annule.
Voilà, c'est ça. Laurent Lamarca et Hugues Lino, vous restez avec nous. On va retrouver Marion dans quelques instants. Mais d'abord, Camélia Jordana, que vous connaissez bien, vous aussi, Laurent Lamarca.
Que j'ai connu, ouais, carrément.
Vous l'avez accompagné?
Ouais, c'est le premier truc que j'ai fait en arrivant à Paris, en fait. Je mettais en musique les compositions qui arrivaient, en fait, au label. Elle venait chez moi, sous ma mezzanine, là, toute pourrie, et elle chantait les chansons, comme ça, d'une traite. J'avais les poils à chaque fois. Enfin, vraiment, c'est hallucinant.
Vous la suivez encore aujourd'hui?
Ouais, on s'est éloigné, on s'est beaucoup côtoyé pendant quelques années, là on se voit plus trop, mais ça reviendra.
Ben nous on la suit jusqu'au bout des cils.
Ouais, non, mais c'est magnifique.
Tes yeux me font la vie, des rêves cotonnes, au salut de la nuit, l'enfer droit comme un lit. Tous les jours tu ris des danses langoureuses, parce qu'elles t'amusent comme des filles amoureuses. Tu dis des mots fragiles, un peu comme je les fume. Avec des airs gamins, tu parles un peu plus fort. Alors j'oublie encore, demain, j'oublie demain. Tu m'as corrompu jusqu'au bout des cils. La saison défile, les racines ont bu. Ce temps-là me plaît, ici l'hiver n'est plus. Ici l'hiver, c'est tu. Tu m'as corrompu jusqu'au bout des cils. La saison défile, les racines ont bu. Ce temps-là me plaît, ici l'hiver n'est plus. Ce temps-là me plaît, ici l'hiver, c'est tu.
Jusqu'au bout des cils, jusqu'au bout de la nuit dans Côté Club.
Côté.
Voici de la musique douce.
Club.
Douce.
Club.
Côté Club. Sur France Inter.
Un peu de musique douce.
Marion, nous sommes vendredi, bientôt la bamboche. Pour ce bientôt, week-end.
Dans quelques heures. Vous vous rappelez, il y a un an, nous étions tous confinés pour la première fois à l'intérieur cette fois-ci, tout le monde à l'arrêt. Et au sortir de cette épreuve, parmi les artistes qu'on interrogeait, ben tous n'avaient pas été forcément inspirés par cette expérience. Vous vous rappelez, Laurent, il y en avait qui nous disaient ah non, mais moi j'ai rien pu faire, j'ai pas pu composer une note et tout. Et puis finalement, un an après, il y a des propositions qui commencent à émerger. Ainsi, Bigger, qui vient de publier un nouveau titre, On the Run. Alors un titre directement inspiré par la sensation de claustrophobie ressentie pendant ce premier confinement. Bigger, ce ne sont pas les Fab Four. Hugues, ce sont 5 musiciens, ils ne sortent pas de Liverpool, ils viennent des montagnes de Franche-Comté. Mais ils ont quand même un chanteur irlandais et ça, ça assoit une crédibilité quand on prétend côtoyer la noirceur de Nick Cave et une puissance pop. Depuis 2016, avec un album, 2 EP, des concerts intenses qui les ont emmenés jusqu'aux Eurockéennes et aux Transmusicales, ils ont installé Bigger, un rock nerveux, lyrique, qu'on retrouve ici dans ce titre qui explose les formats, presque 6 minutes. Un trip au tempo lent mais tendu, traversé par des guitares qui ne demandent qu'à se débrider, une invitation à prendre de large. On the Run, nouvel album printemps 2022, on a le temps, hein, ça va. Un concert le 14 avril 2022 aussi, à la Maroquinerie à Paris. On y croit cette fois-ci. Vous connaissiez Hugues Blinot, vous, le critique à Pop News ?
Eh bien non.
Non.
C'est une soirée de découverte.
Parfait. Très bien.
Elle a eu besoin de mettre des mots et des sons sur ce qu'elle traversait pendant le grand confinement de 2020, comme elle dit. Elle, c'est Wendy Martinez. On en a déjà entendu parler dans cette chronique il y a quelques semaines avec le groupe Gloria, cette formation de garage pop lyonnaise aux 3 chanteuses. Mais voilà, cette jeune femme, elle aime beaucoup trop la musique. Elle bouillonne littéralement de projets. Elle peint ses visuels de pochettes. Elle réalise, elle monte elle-même ses clips. Elle adore les images saturées, oniriques. Son écriture a été nourrie par Gainsbourg, Brigitte Fontaine, Pierre Vassiliou. Et le printemps dernier a inspiré à Wendy Martinez des chansons étranges, fantasques. Elle assume un psychédélisme au féminin, érotico-amoureux, où elle célèbre avec sa voix profonde l'amour cosmique et les vieilles filles en fleurs des années 70.
Nous flottons doux et durs, vilains et mangeurs d'hommes, nous dévorons avec voracité, nous ne laisserons rien, ni poils, ni os, ni plumes.
Wendy Martinez, la chevauchée électrique, c'est issu du EP du même nom. 6 chansons sur le label Le Pop Club Records. Pour un ancien lyonnais, ça vous dit quelque chose, Gloria, vous connaissiez ?
Ben non, Laurent, je ne sais pas, ouais, je sais pas trop, mais on doit avoir des gens en commun.
Certainement. Dernier artiste à avoir profité lui aussi du premier confinement, c'est Peter Van Paul, le plus parisien des Suédois. Ça fait 15 ans qu'il est sur nos radars avec son allure de dandy, sa voix de tête, son talent pour développer une pop toujours très arrangée mais sans être savante. On l'a entendu aux côtés de sa compagne, Marie Modiano, de Vincent Delerme, de Chamfort. Il sortira avant l'été son 5e album, Memories from Saint-Forget. Saint-Forget, du nom d'un petit village de la vallée de Chevreuse, où Peter Van Paul a déménagé son studio mobile. Il s'est installé dans une cabane au fin fond d'un jardin. C'était son Abbey Road à lui. Le premier confinement, du coup, il l'a vécu comme une période où le temps semblait comme suspendu, étiré. Ça a donné une couleur particulière à ses nouvelles chansons, comme si à la fin du morceau, on n'en savait finalement pas plus que ce qui était raconté au début, comme un rêve éveillé, ce qu'on fait allongé dans l'herbe en regardant passer les nuages. Peter Van Paul qui s'est visiblement fait plaisir avec les arrangements de cordes sur Behind the Eight Ball, cet extrait de Memories from Saint-Forget, son nouvel album attendu pour le 5 juin.
Côté. Club.
Sur France Inter.
Vous avez identifié le titre, Laurent Lamarca?
Le titre, c'est Instant Karma, ouais.
Exactement.
C'est pas Highway to Hell?
Non. Instant Karma, pour ouvrir ce plateau Vie et mort de John Lennon avec vous, Hugues Blineau, c'est ce titre qui ouvre et qui ferme votre livre Vie et mort au pluriel de John Lennon. C'est le cadre, en somme?
Oui, c'est vrai que le titre sort 10 ans avant l'événement du 8 décembre 1980. Mais il est un peu prémonitoire dans les paroles. Il annonce aussi un peu cet événement tragique. Et Lennon avait aussi une prémonition. Il pensait avoir une mort brutale. Et c'est ce qui s'est malheureusement produit.
8 décembre 1980, sur le coup de 23h un petit peu avant. Vous vous souvenez, vous, quand vous avez appris justement l'assassinat de Lennon, vous n'aviez pas 10 ans à l'époque?
Non, j'en ai aucun souvenir. C'est assez mystérieux parce que je me souviens de la mort de Claude François très bien. C'est sans doute à cause peut-être de l'éducation et du cadre familial. On écoutait plus de variétés françaises, mais j'ai
comme
absolument aucun souvenir de la mort de Lennon.
Et vous, Laurent Lamarca?
Ah bah non, moi j'étais pas né, donc...
Mais je sais, voilà, c'est pour ça.
Mais c'est fou, Lennon, hein. Cette histoire, c'est incroyable quand même.
Revenir aujourd'hui, en période de pandémie, sur cet événement, ça prend quel sens pour vous, Blineau?
Ah, c'est bon, c'est un peu un enchaînement de situations, parce qu'il y a eu ce premier livre autour des Beatles et
que vous avez fait le jour où les Beatles se sont séparés, voilà, l'année dernière,
qui est sorti 3 semaines avant le confinement, et il était quand même très très lié à l'événement et au 50e anniversaire de cet événement, le 10 avril 1900. 70, donc 2020, le 50e anniversaire, et malheureusement, toute la communication qu'on pouvait éventuellement rêver d'avoir avec l'éditeur s'est un peu écroulée. Et donc, il y a eu comme une réaction cette idée de deuxième date, puisqu'on a fêté le 40e anniversaire de la mort de Lennon en décembre. Donc, il y a eu l'idée de prolonger ce geste, quoi.
Justement, qu'est-ce qu'on a appris de plus avec l'anniversaire de la mort de Lennon, par exemple, je ne sais pas, moi, sur Mark David Chapman, l'assassin de Lennon?
Pas grand-chose, je
pas
pense.
Pas
grand-chose. En tout cas, moi, mon objectif plutôt en tant qu'écrivain, c'est plutôt d'aller chercher des choses qui sont liées à l'intimité de l'événement. Évidemment, on est dans une fiction. Donc on peut imaginer une multitude de choses qui ne se sont pas forcément produites. Je crois que nous avons tous notre représentation, notre Lennon, notre McCartney, nos Beatles. Et ce n'est qu'une proposition parmi plein d'autres.
Tout à fait, c'est pas du tout un documentaire, c'est pas du tout une biographie, ni autorisée ni pas autorisée de Lennon. Les Beatles, source de fiction pour vous, depuis deux albums, j'allais dire presque la même chose, hein, depuis deux livres. Comment vous êtes entré chez les Beatles? Par quel biais? Je sais pas, par un film, par un titre, par un album?
Oui, c'est à l'âge de 15 ans en fait. En 88-89, il y a une campagne de réédition en compact disque, puisque pendant très longtemps, les ayants droit ont résisté à l'appel du CD, qui était le format phare, évidemment, dans les années 80. Et donc, tout à l'heure, en début d'émission, j'expliquais mes premiers chocs musicaux avec les Smiths et Joy Division, mais les Beatles sont arrivés un petit peu après, par le hasard de cet événement médiatisé à l'époque. Et après, il a fallu y revenir bien plus tard. C'est en fait en lisant des textes que j'ai eu cette idée, en tant que passionné de musique, d'imaginer une fiction. Je suis parti notamment du fameux A Life de Philip Norman, qui est un ouvrage de référence. Et puis également le fameux aussi En studio avec les Beatles de Geoff Emery, qui est l'ingénieur du son, qui les a suivis de 62 à 70.
Et on peut dire que c'est l'inconscient des deux textes, hein. Enfin justement, c'est les textes que vous citez qui seraient l'inconscient de vos propres livres. Vous, les Beatles, vous êtes entrés par quelle porte? Par le biais de vos parents? C'est ça, Laurent Lamarca?
Ouais, j'ai tout le temps écouté, moi. Du coup, c'était un peu chez mes parents, dans la platine de mes parents. Mais petit à petit, à force d'écouter, puis en fait, à force de musique, de faire de musique, bah forcément, on y revient, on y retourne. Et en studio avec les Beatles, je l'ai lu il y a 4-5 ans, je crois, je sais plus. J'ai pris une tarte. C'est incroyable. Ils ont tout inventé.
Alors, on va revenir sur la façon dont vous avez écrit la chose. En multipliant les points de vue, il y a 20 anonymes et 20 personnages réels. Vous êtes adepte de la numérologie, Hugues?
Pas du tout. Non, mais en fait, c'était une sorte de jeu, une contrainte. Et aussi un clin d'œil, évidemment, aux 40 ans de Lennon. Il est mort à 40 ans. Il aurait eu 80 ans l'an dernier. Et on fêtait le 40e anniversaire de l'événement. Donc c'était un peu une contrainte. J'ai un peu aussi écrit sous contrainte sur un temps finalement très court, puisque j'ai écrit le livre en pas plus que 18 jours, donc c'était extrêmement rapide. C'est assez étonnant de se dire que j'ai écrit un premier texte qui se déroule sur une seule journée, mais j'ai mis un an ou un an et demi pour l'écrire, alors que celui-ci s'étend sur une trentaine d'années, et il a été écrit à une vitesse extrêmement rapide. Mais je pense que c'est aussi dû au contexte du confinement, très particulier, qui fait aussi que je me suis retrouvé dans une situation un peu singulière d'écriture.
Isolé et presque en transe alors d'écrire comme ça, parce que d'écrire pendant 18 jours, ça veut dire qu'on écrit tout le temps.
Eh bien non, ça a été un peu sans filtre. Non, j'ai pas changé mes habitudes, pas plus de 2 heures par jour, je peux pas trop vous dire. C'est une expérience un petit peu limite aussi, parce que, sans rentrer dans les détails de ma vie personnelle, en fait, j'ai mis un point final à ce texte le jour même où j'ai appris une annonce d'un événement qui me propulsait aussi dans une expérience de deuil personnelle. Et je pense que c'est quelque chose qui infuse et qui imprègne un peu le texte, même si c'était pas du tout volontaire. Et je ne suis pas sûr de réécrire dans cette situation-là une deuxième fois.
On croise Yoko Ono, Paul McCartney, en passant par Annie Leibovitch. C'était la photographe, hein, bien sûr, qui avait photographié, qui avait signé la photo de Yoko et John Holly. Il y a aussi Geoff Emerick, l'ingénieur du son. Enfin, il y en a plein. Ils sont tous identifiés par leur prénom. Pourquoi avoir supprimé les noms de famille de façon systématique?
C'était pour entrer dans un rapport un peu d'intimité. Et finalement, c'est aussi pouvoir sans doute dire, même si je ne l'ai pas formalisé comme ça au moment de l'écriture, que la pensée ou la présence de célébrités ou de proches des Beatles n'a pas forcément plus d'intérêt ou de valeur que celle des fans et des anonymes.
Qui sont aussi présents dans le livre.
Qui sont aussi présents dans le livre. Et c'est aussi ça qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire cette espèce d'aller et retour, évidemment, entre la fiction et la réalité, avec parfois aussi des chevauchements où on ne sait plus trop qui est célèbre et qui est anonyme. Et puis, il y a aussi cette idée que, finalement, on peut être touché en tant que parfait anonyme, très fortement par la mort des musiciens que l'on admire, ou des artistes, et autant que pour un proche. Et ça, c'est quelque chose aussi qui, je pense, transparaît un petit peu dans le texte.
Alors, vous avez supprimé les noms de famille, mais c'est bizarre parce que quand vous évoquez Lennon, dans la postface, c'est-à-dire que là, on est sorti de la fiction, la postface raconte votre rapport, justement, à ce livre, vous écrivez tout, vous écrivez pas John Lennon, vous écrivez John Wilson Ono Lennon.
Oui, bah c'est le, effectivement, c'est son.
Oui, c'est son nom, mais c'est son nom en même temps.
Mais je crois qu'il y a, c'est aussi parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se joue beaucoup entre Yoko et John dans le livre, et cette relation fusionnelle, particulière, paradoxale, et c'est quand même très présent dans le texte, et c'est assez aussi surprenant de voir que. Au moment du confinement et au moment de l'écriture, la presse américaine a sorti des articles, puisque Yoko était en très mauvaise santé. Alors, je ne sais pas ces derniers mois ce qu'il en est, mais on évoquait une fin très proche pour elle. Et en tout cas, dans le texte, j'évoque cette idée, parce qu'il y a vraiment cette relation très particulière. Et cette épreuve du deuil, Yoko Ono l'éprouvera jusqu'à son dernier souffle.
C'est un livre rythmé par des chansons. On entend Lennon, Yoko Ono, mais aussi Neil Young, avec ce premier titre dans les premières lignes de votre livre.
See the lonely boy out on the weekend, trying to make it pay. Can relate to joy.
Ça vous rappelle des souvenirs, je le vois dans votre regard, Laurent Lamarca.
Ouais. Moi, j'ai la pochette.
L'harmonica, c'est chouette. Hein.
Ouais. Ouais. Ben voilà, il vient juste d'arriver derrière nous. Huglino, pourquoi avoir commencé par ce titre pour évoquer donc, au moment où l'on apprend la mort de John Lennon?
Oh, c'était un... Parce qu'effectivement, Neil Young, c'est une ouverture vers le folk et vers un autre univers musical. J'ai effectivement pas pensé du tout au fait que Neil Young soit encore bien vivant et encore extrêmement actif aujourd'hui.
On a compris, ouais.
C'était pas volontaire, mais en effet, il y a effectivement une tension qui peut se créer entre un musicien qui va mourir très jeune et puis un autre qui a une très très longue carrière.
Je vais vous passer deux autres titres qui apparaissent liés à vos personnages. Celui-ci d'abord. Vous identifiez le titre, Hugues ?
C'est Beautiful Boy, ouais. une chanson de John qui est sur le Double Fantasy, qui sort en novembre 1980. Et c'est une chanson qui est adressée à son fils, et c'est le point de départ du livre en réalité.
C'est ça.
Parce que j'ai fait pas mal de recherches, notamment pour le premier livre autour des Beatles, et je suis passé complètement à côté de ce post-scriptum du livre de Philip Norman, qui est en fait une interview de Sean. Sean a alors 32 ans, donc 27 ans après l'événement, et la disparition de son père, et il raconte ses quelques souvenirs, puisqu'il est mort à John, alors que Sean n'avait que 5 ans, et j'ai trouvé qu'il y avait un potentiel de fiction et des images extrêmement poétiques. L'ombre des taxis new-yorkais qui filent sur les murs de la chambre de Sean, son père qui lui joue des balades le soir pour s'endormir, et aussi l'image de l'été 1980, où l'un et l'autre sont envoyés par Yoko en face de sevrage pour héroïne. Ils sont envoyés tous les deux dans les Bermudes, et il y a cette image du père et son fils qui sont dans l'immensité, dans l'océan, et c'est une image qui est extrêmement belle, et qui aussi peut faire penser au début ou à la fin de la vie. Hein. Et c'est vraiment le point de départ du texte, en fait.
Troisième titre.
You had me, but I never had you.
Mother, album Plastic Ono Band. Quel était l'indice que cette chanson pouvait revêtir pour vous pour qu'elle soit présente dans ce livre?
C'est sans doute un écho au premier texte dans lequel j'évoque la mort tragique de Julia, la mère de Lennon en 1958. Je crois qu'aussi ça a à voir avec vraiment l'histoire des Beatles. Je suis un peu convaincu que la fêlure de Lennon évidemment est très présente et très liée au décès de sa mère. Et le fait que Paul McCartney aussi ait connu le deuil de sa mère à l'adolescence, c'est sans doute ce qui les a beaucoup cimentés. Et je suis convaincu que c'est quelque chose qui est au cœur de leur travail.
J'ai une dernière question parce que ce livre « Vie et mort » de John Lennon, c'est vous qui le signez, mais à l'intérieur, on voit apparaître son auteur fictif, un certain Jean-Philippe Prudhomme, qui était déjà présent dans le livre précédent. Et je me demande quelle sera la prochaine mission de Jean-Philippe Prudhomme. Est-ce que ce sera aussi sur la vie et la mort d'un autre chanteur, d'un autre artiste ?
Alors, ça sera plutôt, si tout se passe bien, le troisième texte est déjà bien engagé, même si mon éditeur, Philippe Schweyer,
n'en sait rien.
N'a pas lu une seule ligne, mais en tout cas, c'est une renaissance. Et finalement, c'est assez lié, on est à la maison de la radio, je pense un petit peu à Bernard Lenoir en étant là, parce que j'étais un de ses fidèles auditeurs. Et ça se passe en 1990, c'est la reformation du Velvet Underground sur les planches de la Fondation Cartier, qui était alors à Jouy-en-Josas.
Concert mythique. Hein.
Concert mythique, le morceau Héroïne qui est joué, et j'ai réécrit cette scène en ayant quelques éléments et... Philippe Manœuvre apparaît aussi dans le manuscrit au jour d'aujourd'hui.
Donc voilà. Ça va s'appeler Le jour où...
Non. C'est un titre qui fait référence à Lou Reed, en fait. Voilà. Ouais. Lou Reed qui n'était pas très gentil, vous le savez, sans doute avec les journalistes. Donc il y a une histoire entre un journaliste et Lou Reed, et une rencontre un peu improbable qui les mène sur la tombe de Jim Morrison. Donc on est avec des mythes du rock'n'roll, avec l'objectif aussi d'imaginer que ce personnage récurrent revient de livre en livre pour finir sa vie en 2016 au moment de la mort de Bowie et de Leonard Cohen. Voilà.
Ah, donc ça sera, c'est pas une trilogie, donc il va y avoir un quatrième livre en préparation.
Le triptyque est devenu tétralogie.
Le projet d'une vie, monsieur. Voilà. On va se quitter tout de suite avec Paul, puisque maintenant on ne dit plus Paul McCartney, on dit Paul quand on a lu le livre, avec ce message que je vous traduis, c'est de la chanson. Vous n'aviez jamais peur de jours comme ceci, et maintenant vous êtes submergé par vos angoisses. Laissez-moi vous aider, laissez-moi être votre guide, je peux vous aider à atteindre l'amour que vous ressentez à l'intérieur. Un peu gourou le Paul sur France Inter.
Well, I can find my way, I know my left from right, because we never close, I'm open day and night. I know my way around, I walk towards the light, I'm open round the clock, I don't get lost at night. You never used to be afraid of days like these, but now you're overwhelmed by your anxieties. Let me help you out, let me be your guide, I can help you reach the love you feel inside. Well, I can find my way, I know my left from right, because we never close, I'm open day and night. Ooh, oh, oh yeah, oh
know my way around. I've walked towards the light. I'm open round the clock. I don't get lost at night.
Paul McCartney 2021, vous validez, Hugues Blineau?
Un peu difficilement. Je trouve qu'il fait des choses un petit peu trop propres et j'aimerais parfois un peu plus de dépouillement et d'émotion. Mais
et de votre côté, Laurent Lamarca?
Ouais, moi j'aime bien. Ouais, c'est pas, j'écoute pas ça tous les jours, mais j'aime bien. Enfin, franchement, je trouve qu'il a, il est encore là, hein, il est encore inventif et tout, c'est chouette.
Et bien voilà, c'est la fin de Côté Club. Merci Hugues Blineau. Vie et mort de John Lennon, apparu chez Media Pop. On peut aussi lire Le jour où les Beatles se sont séparés, c'est chez le même éditeur. Laurent Lamarca, merci à vous.
Merci à vous. Merci.
Je rappelle, c'est le troisième album, il s'appelle Un jeu d'enfant. Marion?
Trois nouveaux sons à découvrir sur notre site, ceux de Bigger, de Wendy Martinez et de Peter Van Paul.
Merci à Stéphane Neguenec pour la réalisation. À la technique ce soir, c'est Pauline Laverdure. Merci à Marion Guilbeault, Virginie Rosic, Alexis Goyer qui signe la programmation et Muriel Pérez qui veille sur les playlists. On se retrouve lundi avec deux artistes qui se connaissent bien. Rhône, musicien électro, et Alain Damasio, un des maîtres de la science-fiction version anticipation politique. Marion?
Et on sera en ligne avec Usmar qui signe une série de podcasts Beats and Politics qui mixe musique et philosophie.
Mais voilà, Côté Club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir et le bon week-end.